le magazine des Nations Unies.
Au sommaire de ce magazine, libération d'un militant de Lucha après interpellation des services de sécurité, mais sa disparition quelques jours auparavant avait suscité des interrogations. Le sujet a été évoqué au cours de la dernière conférence hebdomadaire des Nations Unies. Bientôt, une stratégie nationale de développement du secteur de la petite et moyenne entreprise PME en RDC. Le processus a été lancé mercredi dernier à Kinshasa. Un processus dans lequel le PNUD est impliqué. Vous suivrez dans la rubrique décryptage un expert de cette agence onusienne. Enfin, allaitement et travail, c'est le thème de la semaine mondiale de l'allaitement maternel pour cette année. En RDC, seul un enfant sur deux est nourri exclusivement au lait maternel pendant les 6 premiers mois. Insuffisant, estime l'UNICEF et le ministère de la Santé. D'où les plaidoyers pour un espace en milieu de travail pour les femmes allaitantes. La représentante adjointe de l'UNICEF est notre invitée.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine. L'actualité de la semaine a été dominée par la libération mercredi dernier d'un militant de Lucha. Bienvenue Matumo avait disparu depuis quelques jours pendant qu'il prenait part à une réunion à Kinshasa. Sa disparition avait suscité beaucoup d'interrogations sur son sort après l'incarcération de deux autres militants de la plateforme Filimbi dans la capitale. Le sujet a été abordé lors du face-à-face hebdomadaire avec la presse mercredi dernier. Qu'a fait la MONUSCO pour retrouver les traces de Bienvenue Matumo et rétablir la vérité sur sa disparition? Suivez cet élément signé Jean-Pierre Elali Ikoko.
Le mouvement citoyen pour le changement Lucha était sans nouvelles de l'un de ses militants, Bienvenue Matumo, depuis plusieurs jours. Selon Luc Nkulula, lui aussi activiste de Lucha, Bienvenue Matumo se trouvait dans une réunion convoquée par le Parlement de jeunes dans la commune de la Gombe à Kinshasa quand quelqu'un l'a appelé sur un numéro de téléphone anonyme. Il est sorti de la salle et depuis il n'a été plus jamais revu, a-t-il indiqué à Radio Kapi. Du côté du gouvernement, le ministre Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, a affirmé qu'il n'était nullement au courant de la disparition du militant de Lucha. Alors, qu'a fait la MONUSCO pour retrouver les traces de Bienvenue Matumo? Aziz Abdulaziz Thioye, directeur adjoint du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme.
Les services qui ont le pouvoir d'arrestation et de détention dans ces pays disent ne pas savoir réellement où serait passé cet individu. C'est le même cas qui se passe actuellement pour Bienvenue, ce qui est réellement regrettable. Et nous le regrettons, nous le déplorons, parce que dans un état de droit, la protection des citoyens incombe en premier lieu au service de sécurité du pays. Qu'un individu puisse disparaître pendant 3-4 jours et que personne ne puisse dire où serait passé cet individu est extrêmement grave. Donc, il leur appartient de dire réellement qu'est-ce qu'il est advenu de Bienvenue. Nous sommes habitués à ce type de situation et je ne doute pas que d'ici quelques jours, on saura réellement qu'est-ce qu'il est advenu de cet élément de la Lucha. Alors, pour ce qui concerne le Bureau conjoint des Nations Unies, le travail de monitoring des droits de l'homme, nous le faisons sur l'étendue du territoire. Il nous appartient effectivement, en vertu de notre mandat, de faire le suivi, de noter les manquements par rapport aux droits qui doivent être respectés et pour lesquels l'État a pris des engagements, de faire remonter les manquements que nous observons aux autorités, d'en discuter avec eux en vue de les amener à prendre des mesures de correction qui s'imposent.
Pour rappel, des militants de Lucha ont été arrêtés par le service de sécurité en mars dernier lors du lancement du mouvement Filimbi à Kinshasa. Parmi eux, Fred Bauma et Yves Makwambala. Ces deux activistes sont toujours incarcérés à la prison centrale de Makala à Kinshasa.
Un autre sujet d'actualité cette semaine, c'est la démission du chef de la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA. Le général Babacar Gueye a remis sa démission mercredi dernier sous demande du secrétaire général des Nations Unies après des accusations des viols contre des casques bleus en Centrafrique. J'ai accepté aujourd'hui la démission du général Babacar Gueye, chef de la MINUSCA. Je veux saluer ses efforts en faveur de la paix, de la sécurité et de la réconciliation tout au long de sa carrière, a déclaré Ban Ki-moon le 12 août à l'ONU. Pour rappel, le général Gay a occupé de mars 2005 à septembre 2008 et ce à deux reprises le fonction de commandant de force de la MONUSCO, mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, alors MONUC, avant d'être nommé comme conseiller militaire du secrétaire général des Nations Unies et d'y rejoindre la MINUSCA. Le général Gay a été remplacé par le Gabonais Parfait Onanga Anyanga à la tête de la MINUSCA.
Magazine des Nations Unies. Décryptage.
Avec l'appui du PNUD, le gouvernement de la RDC a lancé au cours d'un atelier tenu à Kinshasa le 12 août dernier les processus d'élaboration d'une stratégie nationale de développement de PME congolaise. En marge de cet atelier, un expert du programme des Nations Unies pour le développement nous définit d'abord le concept de PME, petite et moyenne entreprise, avant d'expliquer comment faire pour contribuer à sa promotion en RDC. Cet expert, c'est Stéphane Amani. Il est conseiller en microfinance, emploi et secteur privé au PNUD RDC à Kinshasa. Stéphane Amani répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Stéphane Amani, bonjour.
Bonjour.
Le PNUD de votre agence collabore avec le ministère des PME et classes moyennes en vue de contribuer à la promotion de petites et moyennes entreprises congolaises. Un atelier a même eu lieu à Kinshasa le 12 août dans cet objectif. D'abord, qu'est-ce qu'une PME, petite et moyenne entreprise?
Une PME, c'est une entreprise qui est engagée au quotidien auprès des communautés à offrir de biens et services. On la traite de petite ou moyenne selon sa taille. Et très souvent, on utilise certains critères pour apprécier cette taille. Très souvent, on pense au nombre de personnes employées, parce que les petites et les moyennes entreprises utilisent peu d'agents que les grandes entreprises, ou alors au niveau de leur chiffre d'affaires.
Parlons de la taille. Ces entreprises petites ou moyennes emploient à peu près combien d'agents?
Oui, selon la charte de PME qui a été signée, on pense à 15 staff. Mais il faut dire que cela varie selon les contextes d'un pays à un autre. Ce qui est petite entreprise ici peut être considéré ailleurs comme micro-entreprise. Tout simplement, il est question de le considérer dans le contexte local.
Oui, dans le contexte congolais.
Le charte, je dis, le détermine à environ 15 employés.
Au minimum ou maximum?
Maximum. Et donc déjà au-delà, on est dans les grandes entreprises. Disons la charte des PME qui est consensuelle entre les pouvoirs publics et les PME locales a déterminé que les PME auront 1 à 200 personnes employées par an et que effectivement leur chiffre d'affaires devra aller de 1 dollar à 400 000 dollars annuels et que les niveaux d'investissement devraient être inférieurs à plus ou moins 350 000 dollars américains. Mais aussi, il faut noter que les petites et moyennes entreprises ont beaucoup plus une gestion concentrée. Très souvent, sont des entreprises familiales.
Donc, quand on a sa petite boutique au coin, on est une PME.
Oui, on est une petite entreprise. Il faut retenir qu'on a les micro, on a les petites et les moyennes entreprises. Et chacune de ces catégories a ses spécifications. Mais de manière globale, la tranche que j'ai donnée tantôt incluait au même moment le micro, le petit et les moyennes entreprises.
Vous venez de définir ce que c'est une PME. Le PNUD a participé à l'atelier qui a eu lieu le 12 août, dont l'objectif était de faire l'état des lieux de la PME congolaise. Vous pouvez nous faire cet état des lieux?
La situation de PME ou l'état des lieux peut être fait sur sa situation, son statut juridique ou l'histoire juridique de cette PME qui a évolué au fil des ans et que ce que l'on peut constater que cela n'a pas été jusque-là très clair parce qu'il n'y a pas à proprement parler une loi dédiée à cette PME, il n'y a pas une fiscalité dédiée à cette PME et donc on peut dire autrement que le cadre n'est pas bien posé. Dans l'entretemps, il y a foisonnement effectivement de PME dans plusieurs secteurs. Les petits commerces occupant la tête parce que tout le monde veut faire du petit commerce et que, parce que c'est facile. Malheureusement, on peut dire que l'accès au financement n'est pas aussi adéquat. Il y a davantage d'efforts avec les institutions de microfinance et les banques, mais cela ne paraît pas suffisant. Il faut innover, s'assurer que les besoins de petites et moyennes entreprises sont véritablement adressés. Mais on constate aussi qu'il y a un problème de capacité au niveau de ces PME qui fait à ce qu'ils n'ont pas toujours la meilleure compétitivité que l'on aurait souhaité à ces secteurs. Mais néanmoins, ce que l'on peut dire, que ces secteurs, plus ou moins, nous rendent de bons et loyaux services, si on peut les dire ainsi, parce que ça nous fournit un certain nombre de biens. Il suffit de regarder dans la ville de Kinshasa le nombre de petites et moyennes entreprises qui jonchent nos rues. On s'apercevra que toutes les fois que l'on veut acheter de petites choses, c'est auprès de ce PME-là que l'on recourt. Et que nombre de nos contemporains sont effectivement employés par ces PME. Et donc, aux côtés de faiblesses ou de défis qu'il y a encore à relever, on peut souligner effectivement le rôle combien important qui joue dans notre société. Et donc, de ce fait, on peut dire que ça contribue vraiment de manière significative au développement du pays.
Et alors, l'élaboration de la stratégie nationale est lancée. Quels seraient, selon le PNUD, les grands axes d'une bonne stratégie nationale pour la PME?
Oui, disons d'abord que le tonus est donné par le ministère qui veut impulser une nouvelle vision par rapport à ça. Et que de notre point de vue, sans prétendre anticiper à ce qui devrait être fait, parce que les échanges pourront continuer, mais de notre point de vue, il est clair que cette stratégie devra donner des réponses claires sur les statuts de PME, sur la détermination de régimes fiscaux par exemple, sur le processus de la formalisation de la majorité d'entre elles. Ça devra répondre également aux questions de financement de ce PME, comment arriver à innover dans ce secteur et s'assurer que les PME bénéficient des appuis financiers nécessaires. La question de l'accès au marché est sortie assez clairement dans les échanges et l'idée de la sous-traitance ou de relations avec les grandes multinationales pour des échanges, et donc ça ce sont des questions qui sont ressorties, mais aussi on ne pourra pas parler de PME ou du secteur privé sans parler effectivement des questions en rapport avec les climats des affaires. Comment vont se créer le PME, quels sont les régimes que l'on devra reconnaître à ce PME, les régimes des assurances, etc. Et donc c'est autant d'éléments, autant de défis qui doivent vraiment être clarifiés par cette stratégie de manière effectivement à permettre à ce PME de se développer dans un cadre bien tracé, orienté effectivement vers une meilleure contribution au processus de développement.
Et par rapport à ces défis, quelle va être la contribution du PNUD?
Non, la contribution du PNUD sera d'accompagner effectivement le gouvernement dans ce processus. On est disposé à apporter notre appui technique dans cet exercice. On est disposé à faire de la facilitation parce qu'en définitive, ça va être le gouvernement de la République de la RDC qui devra tracer son chemin et dire ce qu'ils voudront faire de leur petite et moyenne entreprise.
Stéphane Amani, merci.
Quelques nouvelles en bref. L'enregistrement des réfugiés rwandais de Kinshasa a démarré le lundi 10 août selon les HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il s'agit d'un enregistrement biométrique décrété par le ministère de l'Intérieur, précise la source. Une centaine de personnes étaient attendues à cette opération, selon la même agence onusienne, alors que commençait l'enregistrement biométrique dans la capitale congolaise, celui des Rwandais du Nord et Sud Kivu restait suspendu. Restons dans le même registre, cette fois-ci à Lubumbashi, au Katanga, où le HCR signale l'arrivée des demandeurs d'asile burundais. Il serait déjà plusieurs centaines, dont plus de 700 auraient déjà été préenregistrés. Le HCR et les autorités locales travaillent ensemble afin de transférer les demandeurs d'asile enregistrés vers les camps des réfugiés d'Uvira au sud Kivu, où ils pourront bénéficier d'une protection et d'une assistance appropriée, lit-on dans le texte de la conférence des presse hebdomadaire des Nations Unies du mercredi dernier, au cours de laquelle la nouvelle a été donnée. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, lance 3 nouveaux projets dans la province du Nord Kivu pour renforcer son action auprès des personnes déplacées internes et de retourner, indique un communiqué parvenu à notre rédaction. Ces projets sont financés par l'Office humanitaire de la Commission européenne ECHO, le bureau de l'USAID pour les secours d'urgence en cas de catastrophe à l'étranger, OFDA, et l'Agence suisse pour le développement et la coopération, SDC. Enfin, un mot sur les radios communautaires. Le PNUD a organisé du 12 au 15 août deux ateliers de formation au profit des journalistes de la radio communautaire Bashi à 17 km de la ville de Butembo dans le Nord Kivu. Objectif de cette formation, favoriser le développement d'une programmation radiophonique équilibrée des qualités et renforcer les capacités managériales des responsables de cette radio.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'allaitement maternel et le travail, c'est bien le thème retenu cette année pour célébrer la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Du 13 au 17 août, le ministère de la Santé, avec l'appui de l'UNICEF et des autres partenaires, va sensibiliser la population sur l'importance et les pratiques de l'allaitement maternel. Madame Sylvie Fouette, représentante adjointe de l'UNICEF, s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco justement sur l'importance et les enjeux de l'allaitement maternel, notamment en milieu de travail. Suivez. Dans la province de la Tchopo, le chef de bureau de la MONUSCO Kisangani a remis lundi dernier à Yangambi les clés du bâtiment du tribunal de grande instance de cette cité, située à 100 km à l'ouest de Kisangani, au vice-gouverneur de province Pascal Mumbi Opama. Comment se présente cet ouvrage? Qu'est-ce qui a motivé sa construction et comment le bénéficiaire et les autorités provinciales l'ont-ils apprécié? Les détails dans cet échange que Jean-Pierre Elali Coco a eu au téléphone avec Jacques Moukonkole, témoin de l'événement.
Bonjour Jacques.
Bonjour Jean-Pierre Elali.
Vous avez assisté à la remise du bâtiment du tribunal des grandes instances de Yangambi à l'autorité provinciale. Quelles sont les caractéristiques techniques de l'ouvrage, Jacques?
Oui, d'une superficie de 156,56 mètres carrés, ce bâtiment est composé de 4 bureaux pour ses différents services et une salle d'audience. Ils sont tous équipés en mobilier nécessaire. Un bloc connexe est également construit et comprend 3 latrines et 2 cachots pour le parquet de grande instance de Yangambi. Les travaux réalisés par l'entreprise Mirec, mission des ingénieurs humanitaires pour la reconstruction de l'est de la RDC, ont duré 4 mois et ont coûté $52,280.
Ah oui, Jacques, le projet QIPS dure généralement 3 mois. Comment peut-on expliquer les dépassements du délai?
Selon l'architecte Marcel Nzaou Mabiza, certaines difficultés connues pendant l'exécution des travaux ne lui ont pas permis de respecter les délais convenus. Qu'à cela ne tienne, le projet a été réalisé et remis lundi dernier aux autorités pour exploitation par le tribunal de grande instance de Yangambi.
Oui, toute dernière question, comment la MONUSCO justifie-t-elle le financement des travaux de construction de cette juridiction, Jacques?
Le chef de bureau de la MONUSCO Kisangani, Madame Aïssetou Sanogo, motive cette intervention par le souci d'accompagner la RDC vers l'effectivité d'un état de droit. C'est aussi pour améliorer les conditions de distribution de la justice, a-t-elle souligné.
Et merci Jacques pour toutes ces précisions et excellente journée dominicale à Kisangani.
À vous autant Jean-Pierre.
Les mines et les bombes blessent et tuent. Les mines et les bombes ont fait beaucoup de victimes en RDC. Les mines et les bombes sont de différentes formes, couleurs et tailles. Ne les approchez pas, ne les touchez pas, restez prudents. Votre vie n'a pas de prix. Ne prenez pas de risques inutiles. Informez l'autorité la plus proche. Message de l'UNMAS RDC.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
Le conflit Louba-Pygmée-Katanga revient avec la question d'Alain Botoko, journaliste et photographe indépendant, suivi de la réponse du porte-parole de la MONUSCO. Suivez.
Ma question s'adresse au major. Il a parlé que la situation au pays est calme. Or, lui-même a dit bien qu'il y a des tensions entre le pygmée et le louba au Katanga. Ma grande préoccupation est de savoir si ces deux peuples vivaient en harmonie tout le temps. Qu'est-ce qui est arrivé que ces deux peuples vivent en couteau tiré et quelles sont les solutions que la MONUSCO propose? Qu'est dit le gouvernement pour cette situation qui a trop perduré?
Le conflit entre les Baloubakad et les Pygmées n'est pas un conflit récent, il est même séculaire. Vous avez posé la question de savoir c'est dû à quoi? Évidemment, ce sont des problèmes liés à une coexistence qui est tumultueuse, basée sur le foncier, sur la revendication de certains droits. Et vous avez vu que ces deux entités, toutes les deux, constituaient des groupes armés qui s'affrontent de manière récurrente. Que fait la MONUSCO depuis lors? Il faut saluer d'abord l'initiative qui a été prise par les autorités locales, particulièrement dans la région de Nyunzu. Mais aussi, il faut saluer les efforts consentis par la MONUSCO pour mener des actions envers ces deux communautés afin de les ramener autour de la table de négociation.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Pelé Kipela Mondo, marié depuis bientôt 18 ans, journaliste de formation. J'ai une licence en relations publiques. J'ai aussi une maîtrise en communication d'entreprise. Actuellement, je travaille à la MONUSCO, plus précisément à Radio Okapi. Je suis rédacteur en chef adjoint. Dans mes tâches quotidiennes, j'arrive à 10h au bureau et à 11h je commence déjà ma tâche. Donc je supervise les magazines politiques de Radio Okapi qui s'appellent Dialogue entre Congolais. Après la réunion avec l'équipe de Dialogue entre Congolais au cours de laquelle nous définissons les thèmes de l'émission du jour, les invités, à partir de 14h, je prends part au conseil de rédaction de la mi-journée au cours duquel on définit les informations qui vont figurer dans les journaux du soir. Et à partir de là, donc, je prends les commandes des journaux du soir, donc l'édition française et les 4 éditions en langue. Mais également, je jette un coup d'œil sur tout ce qui doit être mis en ligne sur les sites des Radio Okapi. Et également, le soir, je préside le 3e conseil des rédactions des Radio Okapi, soir donc pour préparer les journaux du lendemain matin. Donc, avant de partir du bureau, je quitte actuellement vers 20h30. Je dois m'assurer que tout est au point et après quoi je peux quitter les bureaux. À part ça, je signalerai que j'ai eu aussi la grâce de pouvoir travailler à Bangui. Je suis arrivé à Bangui le 23 janvier, j'ai quitté le 20 juillet de cette année, donc j'ai passé 6 mois à Bangui, où j'ai travaillé au sein de la radio de la MINUSCA, qui s'appelle Guira FM. Là, j'étais rédacteur en chef adjoint, toujours, comme ici, mais je faisais un peu de tout, c'est-à-dire que j'étais reporter, j'allais couvrir les événements, j'étais au micro, j'ai présenté donc le bulletin et de temps en temps j'ai coaché également les confrères centrafricains. Donc c'était une très belle expérience à Bangui parce que c'est une nouvelle mission, c'est un nouveau milieu et ce sont de nouvelles rencontres. C'est une expérience enrichissante. Et aussi, là, j'ai compris le poids des radios Okapi, parce que Radio Okapi reste la plus grosse machine des radios onusiennes. Et lorsque vous vous présentez, vous dites que vous venez des radios Okapi, ah, chapeau bas, on vous respecte. Et donc, c'était une très très belle expérience. Peut-être que j'y retournerai, certainement, mais j'attends. Mais en attendant, bien sûr, j'ai retrouvé mon poste au sein des radios Okapi. Avant la MONUSCO, donc j'ai travaillé un peu partout dans les domaines médiatiques, la presse écrite, l'audiovisuel, donc j'étais présentateur des journaux télévisés ici à Kinshasa, dans un groupe de presse très très bien connu. Mais j'ai eu aussi une bonne expérience au sein de ce groupe-là comme étant directeur commercial. Même si j'ai pas fait la section commerciale, mais c'était une bonne expérience en tant que journaliste, en même temps directeur commercial. Et c'était très bien. À part ça, quand j'ai quitté ce groupe-là, je suis allé travailler dans une radio chrétienne d'une grande église bien connue ici à Kinshasa. Et là, j'étais directeur de programme. Juste après ça, donc, je suis venu à Radio Okapi. Comment je gère mon temps libre? Il faut dire que je suis un casanier. J'aime bien rester chez moi. Je me sens vraiment à l'aise. J'aime bien rester avec mes enfants, avec mon épouse, regarder la télé, je lis également. Je sors très peu, mais j'aime aussi l'accompagner des amis. Et aussi, souvent je suis à l'église, je prie. J'aime beaucoup la musique chrétienne sous-entendu. Hein. Je n'écoute pas ce qu'on appelle la musique profane, je ne l'écoute pas. J'écoute toujours la musique chrétienne, principalement la musique anglaise, et surtout la musique du groupe Hillsong. Ce sont les Australiens avec Darlene. Les sports, j'aime bien le foot, hein, et surtout les championnats européens. Les mets, je ne suis pas très difficile. Je mange pratiquement tout, mais j'aime bien les matembélés. Et le foufou et les poissons, surtout les poissons frais. J'aime bien les poissons frais. Mais sinon, je mange un peu de tout. Alors, mes projets d'avenir. Je voudrais rester dans le domaine médiatique, si possible, mais changer un peu de milieu, c'est-à-dire travailler dans une entreprise comme, par exemple, chargé de communication ou porte-parole d'une institution, une grande institution, ou alors travailler à la direction marketing, par exemple. Ça aussi, j'affectionne, j'aime bien. Donc voilà, je vous ai un peu parlé de moi. J'espère que ça vous aidera à mieux me connaître. Merci.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Dans vos agendas, notez au moins 2 journées des Nations Unies à célébrer au courant de la semaine qui commence. Le 19 août, c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire. Et le 23 août, ce sera le dimanche prochain, la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. C'est la fin de ce magazine des Nations Unies, coordonné par Jean-Pierre Elali Coco. Honoré Missenga était au reportage. Une mise en onde assurée par Jean-Noël Mokondo. Nadine Foulantimba à la présentation. Ne manquez pas au prochain rendez-vous.